Écho d'économie.
Reddition des comptes exercice 2023. Le budget a été exécuté à environ 92% en recettes et plus de 96% en dépenses. Et le fonctionnement des institutions ainsi que les rémunérations ont consommé plus de 70% du budget avec les dépassements de plus de 150%. Massissi, dans le Nord Kivu, entre crise sécuritaire et effondrement économique. La population se trouve à la fois sous pression de groupes armés et confrontée à une crise économique marquée par la fluctuation des prix. Reportage à suivre dans ce magazine. Bienvenue à tous. Présentation mardi de l'économie du projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2023. Le ministre des Finances fait état d'une exécution du budget à environ 92% en recettes et plus de 96% en dépenses. Pour Doudou Fouamba Likoundé, les dépenses courantes, principalement le fonctionnement des institutions et les rémunérations, ont consommé plus de 70% du budget avec des dépassements budgétaires de plus de 150%. Le ministre justifie les dépassements budgétaires par le contexte particulier marqué par la tenue des élections générales, la crise sécuritaire, sanitaire et humanitaire dans laquelle a évolué la RDC en 2023. Le ministre Doudou Fouamba est au micro de Michel Kifindangoy.
Sur une prévision de l'ordre de 32 000 milliards de francs, les recettes du budget du pouvoir central réalisées au terme de l'exercice budgétaire 2023 sont chiffrées à 29 000 milliards de francs, soit un taux de réalisation de 91,22%. Les dépenses du pouvoir central prévues à 32 000 milliards de francs ont été exécutées à hauteur de 31 000 milliards de francs, soit un taux d'exécution de 96,49%. Pour les comptes généraux du Trésor dégagent la situation consolidée des financements des opérations du Trésor, ce qui s'est clôturé au 31 décembre 2023 par un solde débitaire consolidé d'un import de 226 milliards de francs. À cet effet, le déficit du budget général d'un import de 3 000 milliards, 0,30,95 milliards de francs a été entièrement financé par les ressources résultant de la souscription des bons et obligations du Trésor émis d'un import de 2 000 milliards de francs, soit 67,35%.
La maximisation des recettes dues au Trésor public n'est pas seulement l'apanage des agents de la Direction générale des douanes et accises, DGDA, mais nécessite l'apport de tous ceux qui interviennent dans les processus de dédouanement des marchandises. Déclaration faite par le directeur provincial de ce service à l'issue d'une réunion mardi entre les déclarants en douane et la Fédération des entreprises du Congo, FEC Abounia. Félice Kitenge indique que le problème de la fraude douanière est profond en Ituri. Il ajoute que la solution est la prise de conscience par tous pour permettre à l'État d'avoir les moyens de sa politique. Il est au micro de Martial Kizabiamungu.
D'une manière générale, la République démocratique du Congo a beaucoup de poches d'entrée qui ne sont pas contrôlées. Donc elle est poreuse, si on peut le dire. C'est vrai aussi lié à la fraude. Mais je crois que ce qui est plus important, ce n'est pas la personne du directeur provincial. C'est l'ensemble de son équipe. Nous devons conscientiser les agents pour qu'ils puissent comprendre quelle est leur mission par rapport à ce qu'ils représentent au niveau de la province de l'Ituri. Chacun doit prendre conscience, chacun doit savoir ce qu'il doit donner comme meilleur de lui pour arriver à un meilleur résultat. Parce que la fraude ne se fait pas sans les hommes. Ce sont les hommes qui accompagnent la fraude, ce sont les hommes qui encadrent la fraude. Alors, on va essayer de les conscientiser, de les interpeller. Bien sûr, à la lumière de la loi, je crois qu'on y arrivera quand même. Parmi les missions qu'on nous a confiées, il y a aussi cette mission-là. On doit changer les langages, on doit changer les vocabulaires. Au lieu de parler de la fraude, on doit parler des recettes.
Dans le Maniema, le protocole d'accord sur la taxe conventionnelle des produits pétroliers est signé entre les pétroliers et le gouvernement provincial. C'est après plusieurs discussions que le compromis a été trouvé. Le montant de 300 francs congolais par litre a été adopté devant le président de l'Association des pétroliers pour le développement du Congo, le président de l'Assemblée provinciale, le président de la FEC et les acteurs de la société civile. Florence Kizalunga, reportage.
Comme vous le savez, il y a près d'un mois que le gouverneur de province a initié une série de taxes conventionnelles pour le désenclavement de cette province. Après plusieurs discussions, l'accord signé est salué par les pétroliers.
C'est une impression très satisfaisante du fait qu'il y a une longue discussion entre la PDP et le gouvernement provincial. Mais ce qui impressionne, c'est d'avoir trouvé d'abord un compromis, qui est l'accord que nous venons de signer aujourd'hui. Étant donné que ça impacte au développement de notre province, nous n'avons qu'à apprécier, encourager et surtout toujours soutenir cet accord.
Les gouverneurs garantissent assez haute sur la gestion de ces fonds. Moussa Kabankoubi Moïse.
Toutes les taxes conventionnelles, qu'il s'agisse des taxes se rapportant aux 3T, à la filière or, à la cigarette, à la boisson, toutes ces taxes-là finissent leur course dans les comptes de l'AFEC. Donc, en réalité, c'est l'AFEC plutôt qui va gérer ces fonds. Et pour l'utilisation de ces fonds, on a besoin de 4 signatures concomitantes. C'est-à-dire, le gouverneur, s'il a n'importe quelle urgence, il ne peut pas se réveiller et signer un chèque et activer ses comptes.
Signalons que même les acteurs de la société civile saluent ces initiatives du gouverneur qui permettra au maniement de se connecter des autres provinces. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Nord Kivu, dans le territoire de Massissi, la population vit quasiment entre le marteau et l'enclume. C'est le constat d'un responsable d'une ONG locale de développement qui revient de la zone. Au plan sécuritaire, dit-il, la population vit à la merci des rebelles, tout comme des groupes armés Wazalendo qui font la loi selon leur zone de contrôle. Au plan économique, il s'observe une baisse des prix des produits vivriers cultivés localement, alors que les produits manufacturés connaissent une hausse des prix vertigineuse. Sifa Maguru nous en parle avec détail.
Les activités socio-économiques tournent presque au ralenti dans les agglomérations de Massissi, notamment au chef-lieu, indique Pierre Baloumé, coordonnateur de l'action humanitaire pour la consolidation de la paix et le développement intégré AHCOPEDI. Et pour cause, une faible circulation de la monnaie, mais aussi la multiplicité des barrières où il faut payer des sommes exorbitantes, ce qui rend difficile les échanges, notamment l'approvisionnement et l'écoulement des produits locaux. Cet acteur local explique que les acheteurs sont de plus en plus moins nombreux à braver la route pour aller chercher les produits vivriers. C'est ainsi que les haricots, les bananes plantains, les colocases et autres sont en abondance et moins chers. Il donne l'exemple d'un régime des bananes plantains qui coûte 2 000 francs actuellement à Massissi, alors qu'à Goma, ces mêmes régimes arrivent à 10, 15 et 20 dollars américains selon sa taille. Un sac de ciment pour la construction coûte 65 000 francs congolais, soit 22 dollars américains à Massissi, alors qu'à Goma, il est à 9 et 10 dollars. Il parle également du vol systématique des vaches qui a fait chuter l'économie de Massissi, jadis connue pour son potentiel agro-pastoral. Goma Sifa Maguru, Radio Kapi.
Écho d'économie.
L'invité de l'économie, c'est le directeur général de CMAP durant son séjour au Maniema où il a participé activement à la conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures. Jean-Paul Kadiombo fait un état des lieux de son service dans cet entretien accordé à Florence Kizalunga.
Monsieur Jean-Paul Kadiombo, bonjour.
Bonjour madame.
Profitons de votre séjour au Maniema, quel état des lieux faites-vous de votre service ici en province?
Écoutez madame, quand je suis arrivé à Maniema, je devais me rendre compte du fonctionnement de mon service sur le plan administratif, technique, financier. Et c'est ce que je fais parce que les difficultés que nous avons rencontrées au service, cela, c'était une difficulté générale. Dorénavant, quand je suis arrivé à la tête du CMAP, je vais parler d'abord des grands défis, de ce que j'ai rencontré. Donc, j'ai trouvé un CMAP où il y a la non-documentation des données basiques. La difficulté de capter toute la production ici de l'exploitation artisanale, c'était pareil dans toutes les provinces. La non-identification aussi des acteurs intervenants le long de la chaîne de production. Le manque de maîtrise des statistiques de production artisanale de l'or et le manque d'une base de données pour la gestion des informations ici de la production artisanale. C'était un état des lieux général. Les mêmes difficultés que j'avais rencontrées au niveau de la direction générale, ce sont les mêmes difficultés que je rencontre dans chaque province quand je pars.
Quelles sont les grandes innovations et réformes initiées déjà depuis votre avènement à la tête de ces services?
Madame, d'emblée, à mon avènement, vous savez, ça n'a pas été créé depuis 2003, mais on fonctionnait comme ça, il n'y avait pas le cadre organique. Et quand je suis arrivé, j'ai proposé à son excellence madame la ministre des mines sortantes un arrêté pour que nous puissions fonctionner. Parce que j'ai trouvé que les décrets qui a créé le CMAP qui parlait de 4 directions. Deuxièmement, les règlements d'administration. Et j'avais trouvé un arrêté de 2018 qui donnait au moins beaucoup de directions là, à peu près 22, 23 directeurs qui étaient en souffrance et qui attendaient leur notification pour travailler. Nous avons proposé au ministre un nouveau arrêté. On a essayé de travailler ensemble avec le ministre des Mines. On a obtenu un nouveau arrêté. Et je suis en train de notifier province par province tout ce qui a été récupéré dans ces nouveaux arrêtés. Donc, sur le plan financier, vous allez trouver que j'avais trouvé les salaires même des agents, les tout derniers touchés au moins, je pense, 100 $, 90 $. Mais aujourd'hui, le tout dernier, il est dans les 700 $, il est dans les 800 $. Et j'ai amené mon service à signer des partenariats avec des hôpitaux. Donc, au niveau de la direction générale, tous les personnels du CEMAP sont pris en charge par la direction générale.
Vous avez l'obligation d'encadrer les artisanaux, mais il se voit malheureusement que c'est comme s'il n'y a aucun accompagnement.
Le CEMAP d'aujourd'hui est doté d'un système que nous appelons ITB. Avec l'avènement de ITB, qui est une initiative de traçabilité de base, aujourd'hui, nous pouvons avoir toutes les informations possibles de chaque site minier, de chaque coopérative, qui sont les membres des coopératives, ils sont encadrés par qui, ils sont dans quelle zone d'exploitation artisanale. C'est ça même l'encadrement dont nous pouvons assurer un encadrement qui va nous permettre d'avoir une très bonne traçabilité. Alors, les artisans ne sont pas abandonnés. Si vous voyez, partout, nous sommes en train de travailler avec les artisanaux au travers les coopératives minières parce que la loi a interdit que les artisanaux ne puissent plus encore fonctionner en solo. Alors pour qu'ils soient bien encadrés, ils doivent se regrouper.
Monsieur Jean-Paul, comment vous gérez les coopératives minières non seulement au Maniema mais sur l'ensemble du territoire national?
Sur l'étendue du territoire national, nous avons au moins l'effectif de 1415 coopératives minières et la province du Maniema compte au moins 60 coopératives minières agréées, soit qui représentent au moins 4,2% et 141 regroupements d'exploitants miniers avec un effectif d'environ 17 000 exploitants miniers encadrés sur plus au moins des 500 sites miniers. Alors, si nous avons déjà cet effectif de 1415 coopératives, c'est ça la banque de données du CEMAP, madame.
Alors, en quoi consiste cette initiative du CEMAP qui est initiative de traçabilité des bases?
Oui, madame, ce système, c'est un système national. Et ce système vient apporter la solution. Parce que ce système va fonctionner ensemble avec ITOA, qui était déjà réglementé. Alors, on avait des difficultés pour tracer l'or en RDC. L'or, facilement, on peut voler. Mais regardez, l'avènement de ITB, nous allons commencer à prendre le chemin à partir des puits d'extraction jusqu'au niveau des comptoirs.
Selon vous, quelle est la valeur ajoutée de la conférence sur le mine, l'énergie et les infrastructures à votre service?
Et vous savez qu'ici, je voudrais féliciter les initiateurs pour nous avoir invités à titre personnel pour prendre part à ce forum qui est un pari gagné pour la province de Maniema. Et la valeur ajoutée, c'est quoi? Le CEMAP, comme je le dis toujours, c'est un appareil de développement communautaire au niveau de la base. Alors, j'avais fait des recommandations au niveau de la province. J'avais demandé à ce que, si monsieur le gouverneur des provinces fait directement, pensez à mettre sur pied le centre négoce. À ce moment-là, le CEMAP va jouer son rôle de gérer les guichets uniques de la province et vous allez voir que tous les minéraux qui ne sont pas tracés seront tracés parce que nous allons prendre les choses à main et le cadre est maintenant propice. C'est une valeur ajoutée.
Monsieur Jean-Paul Kadiombo, merci.
Merci madame, merci surtout à la grande chaîne de la République, Radio Okapi.
Fin de Écho d'économie. Pierre Dalcinois était à la prise de son, Debs Vita à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.